À 10 jours de la grève du 5 décembre, Édouard Philippe reçoit durant 2 jours les partenaires sociaux.
Et plusieurs voix se sont élevées pour demander au gouvernement de clarifier sa position sur la réforme des retraites. Mathieu Jolivet, on a notamment entendu Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui commence clairement à s'impatienter.
Oui, car côté gouvernemental, c'est vraiment la cacophonie, mais à tous les étages. Vous avez Édouard Philippe qui reste très ambigu. Il se montre très ferme sur le fait qu'il faudra travailler plus longtemps dans le cadre de cette réforme, mais il reste aussi ouvert à toutes les options, dont celle qui consiste à n'appliquer la réforme que dans 40 ans, autant dire pas de réforme. Vous avez Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire, qui lui se montre fermement opposé à cette idée de repousser au calende grec la réforme des retraites. Et vous avez tous ces ministres qui veulent temporiser à tout prix, qui estiment que le climat social actuel n'est pas des plus propices pour mener à bien cette réforme. Bruno Le Maire en fait partie. Et au milieu, Emmanuel Macron, qui continue à souffler le chaud, le froid, qui se montre très ouvert au dialogue, tout en affirmant que rien ni personne ne le condamnera à l'inaction. Emmanuel Macron qui tactique joue la carte de l'opinion le 5 décembre en affirmant que cette mobilisation se limite à la défense d'un intérêt catégoriel, celui des régimes spéciaux, alors qu'à Matignon, on se montre beaucoup plus prudent sur ce point. En tout cas, Laurent Berger, lui, il joue tactiquement sur cette cacophonie en demandant plus de clarté au gouvernement avant de prendre position.
Laurent Berger qui aussi joue parfois sur les deux tableaux.
Oui, puisqu'il faut bien voir que la CFDT cheminot va faire grève le 5 décembre, alors que Laurent Berger, lui, au niveau confédéral, n'y va pas. En fait, il faut bien voir que cette CFDT cheminot a toujours été un électron libre et que Laurent Berger a toujours défendu la fusion des 42 régimes. Mais il pose aujourd'hui 2 conditions. La première, il ne veut surtout pas voir surgir dans le cadre de cette réforme le sujet de l'âge de départ et du temps de travail. Deuxième condition, que une éventuelle clause du grand-père, c'est-à-dire une réforme qui ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants sur le marché du travail, donc pas avant 40 ans, ne soit limitée qu'aux régimes spéciaux et pas à l'ensemble des salariés. C'est sur cette base que Laurent Berger va négocier cet après-midi avec Édouard Philippe avant de s'opposer fermement ou pourquoi pas soutenir cette réforme des retraites.
Merci Mathieu. L'accord entre Tiffany et LVMH devrait être officialisé dans les toutes prochaines heures.
Après avoir relevé 2 fois son offre, le groupe de Bernard Arnault est sur le point de racheter le bijoutier américain pour plus de 16,5 milliards de dollars. Ce serait la plus grosse acquisition du géant du luxe et aussi une belle opération pour le joaillier. Les précisions de Cédric Fesch, notre correspondant à New York.
Tiffany trouve une nouvelle maison très confortable et LVMH trouve l'une des marques disponibles les plus prometteuses. C'est le résumé d'un analyste du cabinet Bernstein ici à New York. Et cette acquisition fera de LVMH un acteur majeur dans le secteur de la bijouterie. C'est le seul domaine du luxe dans lequel il n'est pas encore dominant, même s'il a racheté Bulgarie en 2011, alors que LVMH domine les secteurs de la mode, de la maroquinerie ou encore des vins et spiritueux. LVMH avec Tiffany double potentiellement sa taille et ses profits dans le secteur de la bijouterie, dans lequel il possède aussi Chaumet, Fred, Hublot et Tag Heuer. La bijouterie était l'un des secteurs à plus forte croissance dans le luxe l'an dernier, à plus 7%. Et puis Tiffany, c'est un bijou aussi en termes d'image. Sa fameuse boutique de la 5e avenue à New York est connue dans le monde entier. Elle a servi par exemple de décor au film Breakfast à Tiffany's avec Audrey Hepburn en 1961. Et pour l'anecdote, cette boutique est située juste sous la Trump Tower. Donald Trump qui avait confié à Bernard Arnault le mois dernier, lorsqu'ils inauguraient ensemble une usine Vuitton au Texas. Vuitton, une marque que je connais bien et qui m'a coûté cher.
Un happy end sans doute entre Tiffany et LVMH tout à l'heure. En revanche, on se dirige vers une OPA hostile de Xerox sur HP aujourd'hui.
HP qui a refusé une nouvelle fois l'offre de rachat de son rival à 33 milliards de dollars. Insuffisant pour HP et pas dans l'intérêt de ses actionnaires. Xerox avait fixé un ultimatum à ce lundi 17h à suivre donc. Autre acquisition en vue dans le secteur pharmaceutique cette fois-ci. Novartis annonce vouloir acheter le groupe américain Medtinco. Opération à 9,7 milliards de dollars. Elle doit permettre au laboratoire suisse de se renforcer dans les traitements cardiaques.
La plus grosse introduction en bourse de l'année, c'est Alibaba et c'est demain à Hong Kong.
Le géant chinois, déjà coté à New York, prévoit de lever jusqu'à 13 milliards de dollars sur la place asiatique. Alors pourquoi une telle levée de fonds pour Alibaba? Eh bien, Alibaba, ce n'est pas que du e-commerce. Le groupe s'est lancé via des participations dans la livraison de repas à domicile ou encore dans une plateforme vidéo. Et il souhaite encore aller plus loin dans cette diversification. On vous en dira plus tout à l'heure à 7h30.
Jean-Charles Naouri est sans doute en train de réussir son pari, garder la main sur son groupe.
La procédure de sauvegarde de Rally, la maison mère de Casino, doit être prolongée de 6 mois dans la journée par le tribunal de commerce de Paris. Le groupe a déjà entamé sa restructuration pour alléger la dette de Casino et surtout se recentrer sur ses actifs les plus rentables. Justine Bassogne.
Le patron de casino cherche à sauver son empire. Après 2 ans de guerre acharnée avec les fonds spéculatifs, Jean-Charles Naouri a dû se résoudre à assainir ses comptes. D'ici fin mars, il présentera un plan de sauvetage de sa société Rally, qui croule sous près de 3 milliards d'euros de dettes. Il y a 6 mois, il a choisi de se placer sous la protection de la justice pour contrer les attaques de ses créanciers. La procédure lui permet de repousser de 10 ans le remboursement des fonds spéculatifs. Mais il a dû tout de même consentir à répondre aux demandes immédiates des banques françaises, les rembourser rapidement en désendettant Casino. L'enjeu est aussi de faire remonter le cours de bourse de Casino pour permettre à son patron de ne pas dilapider son patrimoine, comme l'explique Mathieu Pechberti qui suit le dossier pour BFM Business.
Alors le cours de bourse de Casino, c'est la clé du système, hein, parce qu'il permet à son propriétaire, Jean-Charles Naouri, de maintenir sa dette personnelle s'il reste élevé. En revanche, s'il baisse et s'il demeure bas, les banques vont lui demander de démanteler son groupe pour être remboursé et lui risque d'être ruiné. Pour le moment, il réussit à limiter la casse en remboursant en partie les banques et en réussissant à sauver une partie de son empire.
Casino a donc entamé une cure d'amaigrissement drastique, vente de murs, d'hypermarchés, mais surtout de plusieurs enseignes comme Leader Price et son importante filiale en Amérique du Sud. Dans 1 an, la dette de Casino sera ramenée à portions congrues. Jean-Charles Naouri restera maître d'un empire plus petit, recentré sur Monoprix et Franprix.
Accueil très mitigé des opérateurs après l'annonce du prix de réserve pour les enchères 5G. Le gouvernement l'a fixé à 2,17 milliards d'euros. L'ARCEP tablait sur un montant d'1,5 milliard.
Michael Bloomberg se lance officiellement dans la course à l'investiture démocrate.
À la tête de l'une des plus grosses fortunes mondiales, il s'est officiellement lancé hier pour battre Donald Trump, dit-il. L'ancien maire de New York estime qu'aucun candidat à la primaire démocrate n'est capable de le faire. Il avait déjà été à 2 doigts de se présenter en 2016.
Nous passons maintenant au reste de l'actualité avec vous, Faïza.
4 morts dans les intempéries qui ont frappé la Côte d'Azur. Dernier bilan en date des autorités. La région a fait face ce week-end à un épisode méditerranéen très violent avec des pluies exceptionnelles. Il est tombé en 2 jours, l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie. Large victoire des candidats pro-démocratie à Hong Kong hier. En plein bras de fer avec Pékin, ces élections locales ont pris une dimension très particulière. Alors qu'elles mobilisent peu les électeurs habituellement, cette fois-ci, ils se sont rendus massivement aux urnes et ils ont accordé près de 85% des sièges aux candidats pro-démocratie. Un Français enlevé au Mexique, Frédéric Michel, a été kidnappé hier alors qu'il se trouvait dans un parc national en compagnie d'un ressortissant mexicain. Les 2 hommes ont été emmenés de force à bord d'un véhicule par des hommes armés. On termine avec du football en Ligue 1. 3e victoire hier pour l'OM qui s'est imposé 2-0 face à Toulouse. Il retrouve sa 2e place au classement. Autre succès pour Bordeaux qui a dominé Monaco 2-1.